Louis Mullem, l'union libre. Une fébrile impatience, une impatience véritablement épileptique et enragée, secouait la foule entassée depuis le lever du jour dans la 120e rue du 14e quartier de San Francisco. L'agitation allait croissant, la rumeur des milliers de voix de cette multitude avait l'accent d'un océan qui se fâche. C'est qu'on attendait un événement extraordinaire et de nature, certes, à faire délirer toutes les imaginations. Depuis plus d'un mois, la chose était quotidiennement annoncée en caractère d'affiche à la première page des journaux. On en lisait le prospectus, farci de détails et d'illustrations, sur de vastes pancartes promenées à dos d'hommes par la ville. On relisait cette réclame le soir aux rideaux d'entracte des théâtres ou sur d'immenses transparents illuminés par les entrepreneurs de publicité. Du salon au pavé, de l'alcôve à la belle étoile, on ne parlait plus que de cette affaire dont le dénouement allait enfin se produire. Mais il n'était encore que 10 heures du matin et c'était à midi seulement qu'Hélène Kemp, l'héroïne de ce fait mémorable, devait faire son apparition. Or, Hélène Kemp, ainsi disait-on sur un gigantesque calicot qui couvrait toute la façade du 7e hôtel de la 120e rue, or, Hélène Kemp avait été prise du désir de se marier, mais instruite des derniers travaux des statisticiens, elle n'ignorait pas qu'on rencontre à San Francisco 30 hommes environ pour une seule femme, et par suite, elle craignait le trop grand embarras du choix. D'autre part, elle redoutait, vu son absence de fortune, d'être contrainte d'accepter une proposition ou d'agréer des hommages indignes de son éducation, de sa jeunesse et de sa beauté. Le hasard pouvait seul trancher de pareilles difficultés. Hélène Kemp s'entêtait à s'y confier, mais elle en corrigeait les chances trop aveugles par une ingénieuse combinaison qui lui assurait en même temps un époux et une dot. Cette combinaison était bien simple. La jolie, la belle, la charmante Miss Hélène Kemp avait résolu de mettre sa séduisante personne en loterie. Le prix du billet, disait-on ensuite, est de 1 $. Le nombre de billets est de 20 000. Le tirage de la tombola aura lieu le 18 juillet, à midi précis. À ce jour et à ce moment, Miss Hélène se montrera sur la plateforme devant la porte du 7e hôtel et n'y laissera voir à loisir pendant l'opération confiée aux jeunes et innocentes mains de 5 personnes du 3e orphelinat. Le gagnant, quel qu'il soit, possédera légitimement la jeune personne, si elle veut et s'il le peut. S'il refuse le mariage, Miss Hélène Kemp gardera la dot et sa liberté. Éducation, beauté, jeunesse et 20 000 $. Tels étaient les cris admiratifs que poussait sans fin l'épaisse masse d'hommes encaissés comme des harengs dans la 120e rue, dont ils emplissaient littéralement la chaussée, les trottoirs, les cafés, les bars de toute espèce. Car le public féminin, justifiant la statistique invoquée par Luo, était en infime minorité. Cet attroupement de peuple et de populace exhalait une pénétrante odeur d'eau-de-vie et de tabac. Par-dessus les têtes, sur toute l'étendue de la couche vivante, voltigeait un léger nuage bleuâtre de fumée de cigares, à travers lesquels s'élevait en spirale plus dense et plus grise la vapeur de quelques pipes et brûle-gueule. Mais le ciel était pur et bleu. Le soleil de juillet léchait de flammes chaque détail, et l'on voyait, parmi quelques taches d'ombre, un perpétuel miroitement de lumière crues et criarde. Il y avait quantité de rigides figures de Yankees aux grand front cordé de veines, au long trait sec, à la peau bise, à la bouche railleuse, cynique ou cruelle, faute de poils aux lèvres. On devinait nombre d'Irlandais à leur physionomie blafarde et alcoolisée, à leur inculte fouillis de cheveux couleur de houblon. Par-ci, par-là, pivotaient les crânes suants et frais rasés des Chinois silencieusement attentifs. Ces têtes de tout genre et de tout âge tournoyaient sur une mouvante cohue de torses vêtus de drap noir ou gris, de toiles blanches, jaunes ou rousses, de cravates voyantes, de cols de chemise dilatés. Il y avait du luxe, il y avait des guenilles, des mains gantées, des bras nus de travailleurs. C'était de l'égalité cosmopolite fusionnant en un large flot qui remplissait la 120e rue et formait un remous de curieux dans les rues voisines. L'entreprise, on le voit, avait été bien conduite. Grisée depuis si longtemps par les apologies de la presse, allumée d'espérances érotiques ou conjugales, tous les gentlemen présents, sauf de rares exceptions, avait risqué un dollar ou plusieurs sur cette chance entremetteuse d'une Vénus. Ils envisageaient d'ailleurs, en bons américains, ce cas étrange, mais sans marivaudage ni mysticisme. Ils exhibaient leurs tickets et comparaient les chiffres. On opérait des échanges et des reventes, on ouvrait des paris, on concluait d'immoraux compromis visant la dot plus que la femme, ou divisant l'une et l'autre. Du milieu de la rue jusque dans l'intérieur des tavernes, on négociait comme à la bourse, avec force hurlement, on se disputait, on se poussait, on se bousculait, quelques luttes à coups de poing violemment assénées commençaient de distance en distance à illustrer la fête. 11h30 sonnèrent à l'horloge de la 7e chapelle. Alors, tous qui pouvaient encore essayer de poser la moitié de l'orteil sur l'asphalte des trottoirs, sortis des buvettes et cabarets. Des grappes vivantes grimpèrent au réverbère et se collèrent aux espaliers, aux murailles. On regardait des balcons, des fenêtres, des lucarnes. On fit irruption sur les toits environnants. On étouffait, on se tordait, on grillait au soleil et on frémissait à l'unisson. À midi moins un quart, une aigre et détonnante fanfare, masquée par le grand rideau de calicot, fit éclater une demi-douzaine de fois l'air national de Yankee's Doodle. Des hurrahs frénétiques saluèrent ce charivari. Mais l'enthousiasme ne devait plus avoir de répit, car décidément, l'exhibition commençait. Les 5 bambins du 3e orphelinat vinrent, selon le programme, se ranger au pied de l'estrade, dans un petit espace qu'une corde isolait de la foule. Ils étaient suivis, ces comparses, d'un gentleman qui fonctionnait, selon toute apparence, en qualité de metteur en scène de la comédie, et qui plaça, sur le bord du théâtre, 5 corbeilles d'osier, dans chacune desquelles il introduisit 10 cartons, après avoir montré distinctement et longuement à l'assistance que ces cartons étaient chiffrés en conscience depuis 0 jusqu'à 9. Le gentleman avait une figure impassible et des gestes d'une bouffonnerie rythmée qui trahissait un clown de cirque momentanément en habit noir. Il agita les corbeilles, puis les disposa symétriquement à la portée des 5 innocentes mains de l'orphelinat. Midi sonna, mais on eut à peine le temps de pousser le « Ah !» traditionnel. L'air de Yankee Doodle retentit encore. Une déchirure sillonna le milieu du grand rideau de Calico, et Miss Ellen Kemp vint se planter à l'avant de l'estrade. Oui, elle était jeune, oui, elle était belle, et le bruit se répandit aussitôt parmi le populaire qui pullulait jusqu'aux dernières limites du 17e quartier. pour la masse qui admire ou condamne sans phrase, une épithète vaut une description. Elle est charmante, elle est gracieuse, disait chacun. Oh, elle est élégante, fraîche, gentille, jolie, sympathique, oh, sympathique, originale, séduisante, élancée, solide, blonde, rose, rieuse, exquise, adorable, éblouissante, enivrante, proclama-t-on au loin. Et les yeux même de ceux qui ne voyaient rien s'emplissaient d'extase. Aux fenêtres, quelques reporters griffonnaient des esquisses moins sommaires pour les journaux du soir. « Helen Kemp, crayonnait-il, est une belle blonde aux yeux bleus, à la taille légèrement au-dessus de la moyenne. Elle a la poitrine amplement développée et les manches de barège laissent deviner des bras vigoureux. Son air, toutefois, n'a rien d'une virago, d'une héroïne de roman, d'une exaltée, d'une sectaire, ni d'une extravagante. Sa robe de soie, rayée de bleu, de gris et de rose, en demi-teinte sur fond blanc, son coquet chapeau de crêpe noir piqué d'une pivoine, son col cassé, ferme et bien blanc, ses gants de soie paille, sa petite valise en chagrin noir à fermeture d'acier, son parasol brun pendu par une chaînette à la ceinture, constitue la toilette de voyage d'une personne convenable de la classe aisée. Helen Kemp regarde le public avec calme et sans affectation de forfanterie. Elle n'est ni agitée ni étonnée. Il semble qu'elle pense faire la chose la plus naturelle du monde et accomplir un des actes ordinaires de la vie. Son attitude, en attendant que le hasard dispose de son existence, est celle à peu près d'une demoiselle bien élevée, en présence de Haldermen, au moment de contracter un mariage de saison. L'ébauche était presque ressemblante. Helen Kemp, à coup sûr, agissait sans ostentation, bien que son aventure dût enrichir le catalogue des abracadabrances nationales. Elle était sereine et souriante, mais froide et attentive, comme lorsqu'on va conclure une affaire. L'assistance mâle, suffocante et haletante, était loin de se montrer aussi placide. La beauté de Miss Helen donnait un intérêt poignant à la partie engagée. Le désir, l'amour subi, la jalousie commençaient à surexciter les cervelles des spectateurs provisoirement rivaux et se traduisaient en injures brutales, en provocations grossières échangées dans toutes les formes connues et dans tous les idiomes connus. On se traitait de chien irlandais, d'anglais stupide, de crétin du valet, de lanzarone et de rôdeur de barrière, de carliste, d'alphonsiste, de feignard, de communard, de socialiste et de nihiliste, pendant que les Yankees, exaspérés de cette concurrence transatlantique, criaient « en Europe, maudite crapule !» La fanfare, par bonheur, fit trêve. Il y eut un palpitant silence, pendant lequel le précédent gentleman ordonna au candide délégué de l'orphelinat de mettre une main dans chaque panier, de saisir une carte unique et d'attendre le signal. Mais il était écrit qu'il y aurait combat. Quelques hommes pesèrent contre la corde de clôture et se penchèrent pour surveiller l'extraction. Les cinquième et sixième rangs redoutèrent une fraude et le soupçon, s'enflammant comme une traînée de poudre, alla faire explosion aux deux bouts de la rue, d'où rejaillir vers le centre de calomnieuses insinuations. Oh, il n'en fallait pas plus pour déterminer une rixe, car les longues provocations des héros d'Homère ne sont pas de mode chez le peuple Nouveau Monde, plus avare de son temps que de sa vie. Déjà des boxeurs se tamponnaient le mufle, Des pointes de souliers sifflaient contre des mâchoires. De larges semelles se plaquaient sur des ventres ou frappaient des tibias à revers. On se prenait à la gorge, on s'émordiait, on se crachait à la figure ce qu'on était mordu. Quelques poitrines se cambraient autour de coups de pied reçus dans le dos. Plusieurs lames de couteaux poignards scintillaient au soleil comme des lueurs électriques. Des revolvers, machines à moudre la mort, égrenaient leurs notes sèches et crépitantes. Un Chinois, profitant de la bagarre, s'était glissé jusqu'à la corde, et son œil, lourd de volupté, caressait la pétissante fille de race blanche. Mais la rage de quelques batailleurs se tourna contre ce rebut de l'Orient. Ah, le malheureux, happé à la nuque, renversé, terrassé, plongea sous la plèbe, et de coup de botte, émergea plus loin dans un vide formé alentour de deux pugilistes qui, plus acharnés que le reste des guerriers, se pochaient et s'incisaient avec de grands cris de massacre. Toujours calme et ne se crispant dans aucune arrogante impassibilité d'apparat, Miss Hélène suivait cette scène avec un assez vif intérêt. L'incident d'ailleurs avait un caractère de grandeur et d'étrange beauté. L'inexorable et démoralisant célibat de la cité industrielle enfiévrait ces troupeaux d'hommes assoiffés d'amour. Et devant cette femme que le hasard promettait également à tous et qui se tenait là, superbement désirable, triomphalement provocante, symbole vivant des joies de la possession, ces malheureux, ces déshérités, ces travailleurs étaient prêts à s'entre-déchirer comme des bandes de fauves affolées dans le désert par l'âcre arôme d'une seule femelle. Oui, ce simple fait divers de la journée d'un peuple avait une fière tournure épique, digne d'une page d'histoire. La mêlée allait devenir écœurante. On entendait des râles brefs et sinistres, quelques têtes blêmes se rejetaient en arrière comme pour se détacher de gorges serrées en des mains tenaillantes. L'air s'empestait aux amères sueurs de la colère. Quelques chairs se gaufraient, des taches de sang éclataient comme des fleurs purpurines enlevées à l'aquarelle sur les faces livides. Mais tout à coup, le silence sans souffle encore une fois régna. Les plus féroces s'arrêtèrent pour regarder. C'est que les petits de l'orphelinat tenaient en l'air à bras tendus les cartons qu'ils venaient d'extraire des corbeilles, et tous les yeux, toutes les bouches, lurent et proclamèrent ce chiffre, 18 745, 1-8-7-4-5, qui transformait pour Miss Hélène Kemp le hasard en destinée. La musique, impitoyable mélange de pistons et de clarinettes, épaissie de grondements de tambours, se reprit à vague armée des refrains en vogue, et la curiosité des assistants se ralluma, car Miss Hélène s'immobilisait sur les tréteaux, comme si elle eût attendu que le possesseur du numéro, sorti des urnes, vint réclamer sa conquête. Certes, oh, cela promettait un retour d'amusement. Le gagnant serait peut-être vieux, laid, pauvre, monstrueux, ivre ou fou. N'importe, le mariage se ferait, s'il l'exigeait. On prendrait son parti, de cérémonie nuptiale aurait lieu, séance tenante. Il suffisait du concours d'un éclair de Gémen, sans doute présent. Oui, on allait probablement un peu rire, en compensation de tant de dollars envolés. Malheureusement, les choses avaient été disposées d'autre façon. Hélène Kemp disparut derrière un second rideau de calicot, que des mains invisibles déroulèrent du sommet de la baraque, et sur lequel parurent ces mots en grosses lettres noires. Hélène Kemp appartient à Joshua Broghill. Joshua Broghill. Joshua Broghill, D.M., 91e rue, 60e quartier. Docteur médecin, tel était donc le mot de cette incommensurable mystification. Un esculape, aussi obscur que peu scrupuleux, avait imaginé, croyait-on, ce moyen d'escamoter une moisson de gloire et d'argent comptant. La célébrité désormais certaine de Joshua Broghill prit naissance au milieu d'une huée formidable dont le bruit s'épandit par toute la ville. Il y eut un ouragan de rires, d'injures, de sifflets, de malédictions. Le théâtre en plein vent, renversé à la hâte par une équipe de charpentiers, sembla s'abîmer dans la tempête et le septième hôtel reparut dans sa peau monumentale nudité. La pièce était jouée, et la multitude, courant après le temps qu'elle venait de perdre, s'enfuit comme une trombe par toutes les issues. 5 minutes plus tard, la rue avait repris son aspect accoutumé. Les files de travailleurs, de négociants et d'hommes d'affaires s'écoulèrent paisibles et continues, ainsi que les eaux d'un fleuve au soleil. Et voilà comme les choses se passent, si vite effacées. L'agitation provoquée par cette passionnante aventure se dissipa dès que le dénouement fut divulgué. Personne ne s'avisa d'attendre Miss Ellen Kemp pour la suivre ou la voir à l'instant de près. On pensa qu'elle ne dépendait plus que de son nouveau mari, ou le cas échéant de la justice. Ellen Kemp demeura près d'une heure encore à l'hôtel afin de régler ses comptes avec le drôlatique régisseur de sa vente à l'encan. Puis elle sortit, mit le pied sur l'asphalte et partit, svelte et alerte, tout d'un trait comme une colombe avec un bruit d'ailes dans sa légère robe d'été. Elle allait, sans effronterie mais sans hésitation, tenant de ses mains finement gantées l'ombrelle et la valise. Elle avait la démarche gaie d'une pensionnaire à peine entrée dans la vie libre et qui se sent encore enveloppée de sympathie dans toute l'atmosphère sociale. Elle suivait les rues, les squares, les places, les quais, sites numérotés à tous les angles et nullement honorés, comme dans les villes séculaires de noms célèbres plus ou moins connus. Grâce à ce système, cependant, Miss Ellen n'avait qu'à prendre au carrefour le chiffre le plus élevé pour atteindre, sans consulter personne, la rue lointaine de son propriétaire. Elle y arriva méthodiquement en 2 petites heures, ou, si vous le préférez, en 1 grande heure 3/4. Le numéro 125 de la 91e rue était d'aspect tranquille et honnête. Une propreté méticuleuse luisait sur les volets peints en verre, sur les vitres polies, derrière lesquelles se relevaient à demi des rideaux de mousseline, et jusque sur les feuilles des plantes grasses qui faisaient avec leurs poteries de terre rouge vernissée l'ornement intérieur des 2 fenêtres du rez-de-chaussée. Chaque détail souriait d'un effet de lumière, et les rayons du soleil, tombant alors obliquement sur la porte, étaient vivement reflétés par une plaque de cuivre où des lettres noires, creusées dans le métal, annonçaient le logis de Joshua Broghill, D.M. « C'est ici, » se dit Miss Ellen. Et fort hésitante, elle parut se demander « Mais que diable viens-je faire dans cette maison ?» Et quel langage dois-je tenir ? Mais un regard jeté sur la sacoche enflée des 20 000 $ lui rendit la notion du devoir, et elle étendait la main vers le bouton de la sonnette quand la porte s'ouvrit d'elle-même. Une respectable vieille dame, de noir vêtue, à tournure de gouvernante et de couécresse, se montra dans l'encadrement. « Le maître y est-il ? » demanda Miss Ellen. La figure de la dame prit une expression très cordiale. « Votre santé est bonne, j'espère, Miss Ellen ? » dit-elle du ton le plus aimable. « Oh, certainement, le maître est à la maison, veuillez me suivre. » Et prenant les devants, après avoir refermé la porte de la rue, elle conduisit la visiteuse vers un petit parloir situé à l'autre extrémité du corridor. Hélène Kemp éprouva quelques surprises à s'entendre nommer par cette vénérable introductrice. « N'aurais-je l'honneur d'être connue de vous, madame ?» demanda-t-elle. « Oh non, non, Miss Hélène, mais en conjecturant, d'après les circonstances, j'avais deviné, ou plutôt supposé, excusez-moi. » La dame semblait intimidée du regard étonné d'Hélène Kemp et parlait avec un embarras visible. « Vous attendrez 2 minutes au plus, dit-elle, et je reviendrai vous prendre. » Et elle sortit, après avoir courtoisement invité Miss Hélène à s'asseoir. Demeurée seule, Hélène Kemp sentit qu'enfin son cœur battait un peu d'effroi, tant l'aspect de toute chose dans cette demeure était à la fois coquet et imposant. Le parloir, aux petites pièces carrées, montrait l'ameublement le plus simple, mais à travers la fenêtre ouverte, on voyait une cour inondée de soleil et ornée d'une jolie fontaine de marbre à jet d'eau dont la poussière irisée rafraîchissait d'innombrables fleurs rares et resplendissantes, s'étageant sur des gradins jusqu'aux murailles tapissées de lierre. Un merle, dans une cage accrochée aux feuilles, se prit tout à coup à siffler une note amusante, comme pour souhaiter la bienvenue. Sauf ce merle, tout se taisait dans la maison, et on percevait un silence d'assoupissement sous la lourde chaleur de l'été. « Le docteur Joshua doit être un gentleman très comme il faut, » pensa Miss Hélène. « Il aime, à coup sûr, le confortable et la sérénité. On doit vivre heureux sous ce toit. Les passions sont peu turbulentes ici. Oh, j'imagine que le docteur n'est plus de la première jeunesse. » Cette hypothèse en provoquait nombre d'autres, mais la vieille dame était revenue dans le parloir, toujours souriante et sans plus de bruit qu'une nuée nageant sous un ciel clair. « Venez, chère Miss Hélène, le docteur vous attend. » Hélène Kemp se roidissait contre un petit tremblement nerveux qui l'envahissait, se leva et marcha, tenant toujours à la main son ombrelle et son sac au dollar. La chambre du docteur était au premier étage, juste au-dessus du parloir qu'on venait de quitter. Au milieu de l'escalier, Hélène Kemp se mit à trembler plus fort en pensant que le docteur pouvait bien aussi être un homme jeune et beau. « N'est-ce pas, se dit-elle, ce qui l'oblige à prendre une si vieille intendante ?» Une porte s'ouvrit. Miss Hélène Kemp fut annoncée par la respectable dame d'une voix venante. « Miss Hélène Kemp, entrez, asseyez-vous, » dit une autre voix plus accueillante encore et si douce que, malgré sa frayeur et sa honte, maintenant d'avoir fait un coup de tête ridicule, Hélène Kemp regarda tout autour d'abord la personne qui venait de parler. C'était une femme, jeune encore, et qui, sans être belle, avait ce charme singulier que donne au visage une intelligence peu commune. Ses cheveux, d'un blond satiné, encadraient un beau front aux tempes bien pleines et retombaient, sans se boucler, comme une touffe de soie. Ses lèvres souriaient à demi. Ses yeux, d'un gris noir, étaient comme deux grandes lumières allumées par une rare chaleur de sentiment et de sensibilité. La toilette, d'un goût sévère, rappelait celle de la vieille camériste et se composait d'un col de toile blanche et d'une robe de drap noir, boutonnée depuis la gorge et descendant sans plis jusque sur les pieds comme une soutane. La vue de cette agréable créature causa, faut-il le dire, un certain désappointement à Miss Hélène, qui eût préféré, sans doute, rencontrer le docteur seul chez lui et surtout le rencontrer célibataire, que d'avoir à s'expliquer avec sa femme. Le dépit de Miss Hélène était d'autant plus excusable que la chambre où on la recevait révélait un art fort intéressant. Des rayons chargés de livres, des instruments de physique et de chimie, des plantes, des gravures, un piano et 1000 autres objets encore, proclamaient que le docteur était à la fois un savant, un artiste et un poète. De plus, Miss Hélène s'attendait à du persiflage, et cette idée la délivra de tout reste d'intimidation. Mais je venais dans le but de parler au docteur Joshua Bogrill, dit-elle, non sans une certaine sécheresse. Et le docteur Joshua Bogrill, c'est moi, répondit avec une grâce parfaite la dame en soutane. Vous? S'écria Miss Hélène, stupéfaite, le regard fixe et la bouche béante. Oui, ma très chère, dit Joshua Bogrill. Oh, le docteur n'est ni vieux, ni laid, ni jeune, ni beau, ni même docteur. Il est une doctoresse, et le mari que le hasard vous a procuré ce matin est une femme. Hélène Kemp revint aussitôt de sa surprise. Elle apprécia la facétie que venait de se permettre le destin et se livra sans contrainte à l'éclat de rire, le plus franc, le plus épanoui, le plus sonore, le plus délicieusement féminin qu'on eût entendu depuis longtemps ou peut-être jamais dans la ferrée et soucieuse métropole de San Francisco. La doctoresse avait seulement souri, mais sans paraître froissée le moins du monde. Oui, j'aime beaucoup la gaieté, dit-elle lorsqu'Hélène Kemp se fut calmée. Et ce rire orné de belles petites dents blanches mérite tout l'honneur qu'il a d'annoncer ici la venue de votre jeune beauté. Il y avait à la fois de l'ironie et de l'amabilité dans le débit de ce madrigal. Joshua prenait le bon, le ton d'un homme du monde, disait des fadeurs ou d'une femme d'esprit qui narguait discrètement l'indulgence des filles d'Ève par les banalités élogieuses. Miss Hélène comprit que la doctoresse ne manquait pas de malice et parut saisir avec empressement l'occasion de se divertir. Pardonnez-moi de rire ainsi, dit-elle, mais c'est de mes appréhensions de tout à l'heure, au moment de sonner à votre porte. Et que redoutiez-vous donc? En général, un maître, et en particulier les défauts, les vices ou les infirmités dont ce personnage risquait d'être pourvu. Mais ne rencontre-t-on pas quelquefois des hommes jeunes, riches, intéressants, séduisants? Oh, ceux-là ne sont jamais les premiers venus dans l'existence d'une femme, même quand c'est le hasard qui conduit les choses. Les premiers! La doctoresse eut un sourire imperceptible, nuancé de scepticisme. Aviez-vous donc, ajouta-t-elle après une pause, mis aussi à la loterie l'enjeu d'un cœur tout neuf, et apportiez-vous à votre acquéreur inconnu le bonheur tout entier? Oui, je puis vous l'affirmer, quelque étrange que cela paraisse, répondit Miss Hélène, aux prises avec un nouvel accès d'hilarité. Mais quoi, vous êtes jeune, vous êtes belle, et on ne vous a jamais recherché. Moi, si j'en dois croire ce qui m'a été dit, j'ai eu un adorateur à Baltimore où je naquis et où j'ai vécu jusqu'à présent. Dans cette même ville, ce même adorateur a poussé, il y a quelques mois, certains soupirs qui passent pour avoir été le dernier. Vous ne le regrettez pas? Oh, mortuairement, il était très bien. Le fil de ses jours avait été brisé par un vulgaire coup de boxe, par un de ces horions méthodiques qui, dans la nomenclature des ressorts du pugilat, doivent occuper un rang distingué, car son application sur le chef de mon amoureux fut, comme je viens de vous le mentionner, décisive. Oh, ces choses tristes, mais dont il lui resta cependant sur le visage un agréable sourire que le médecin de l'enquête judiciaire qualifia de rictus. Il aurait dû mourir plus tôt, j'eusse moins tardé à l'aimer. Mais d'où venait ce coup de poing tant funeste? Oh, d'un rival. Je voulais un peu, malgré moi, beaucoup, malgré mes parents, honnête et sévère négociant, épousait le futur défunt parce qu'il était comédien et pouvait réaliser mon souhait de courir le monde. Mais il était tragiquement jaloux de quiconque m'approchait, et surtout d'un énorme et lourd Allemand, commis de mon père. Il chercha querelle à ce Germain, qui lui fit la réponse tudesque et sans réplique terrestre, dont vous savez le résultat. Alors cela m'a donné une flatteuse idée des hommes. Oui, il est juste dans la plupart des cas, mais n'eûtes-vous plus d'autres malheurs? Aucun. Et après un laps de temps consacré aux réflexions funèbres, je constatais qu'il me fallait à tout prix une existence vagabonde. Je pris mon sac de voyage certains soirs, j'arrivais le surlendemain à San Francisco, et me voici avec mon sac de voyage toujours le même, sauf qu'il s'est arrondi de 20 000 $. Mais vous êtes une charmante enfant, douée d'une très aimable folie, dit Josua Broguil, en manière de conclusion au récit d'Hélène, dont elle avait suivi chaque détail de l'air le plus approbateur. Puis, accentuant ses paroles et se composant tout à coup un visage presque sérieux, la doctoresse ajouta « Oui, vous êtes charmante, et je déclare que vous me convenez sous tous les rapports. C'est bien sincèrement que je remercie le hasard d'avoir conduit vers moi quelqu'un de votre genre d'esprit et d'avoir favorisé votre amour des aventures en vous procurant la plus étrange de toutes celles que vous pouviez imaginer. Et que va-t-il donc m'arriver ?» demanda Miss Hélène, très intriguée. « Ben, il vous arrive ceci, que je vous ai gagné et que je vous garde. Je suis décidé à maintenir les droits que m'apporte mon succès de ce matin. » « Vous voulez m'épouser ?» s'écria Miss Hélène en riant, enfin à gorge déployée. « Et pourquoi pas ?» dit Josua Broguil en riant aussi. « Mais les lois, oh les lois permettent tout en Amérique !» Ceci avait de vagues apparences d'aliénation mentale, à moins que ce ne fût une ravissante plaisanterie. Et dans le doute, Hélène Kem se mit à étudier attentivement la physionomie de son interlocutrice. Il y avait de quoi s'y perdre. Les yeux indéfinissablement teintés de la doctoresse rayonnaient d'un feu sombre, indice d'une volonté ferme et tenace jusqu'à l'exagération. Son front vaste, régulièrement fuyant vers le sommet, dénonçait, avec de hautes facultés d'étude, une dangereuse tendance aux hypothèses hardies, aux négations irrépressibles et aux envolées dans l'idéal. Il est vrai que les lèvres charnues promettaient de la bonté et que le nez, s'affranchissant de toute sévérité sculpturale, ramenait cette figure à l'expression du réalisme le plus raisonnable. Le résultat de l'examen, c'est qu'en somme, Josua Broguil, sous ses cheveux blonds lustrés comme une aile de tourterelle et tombant sur les épaules comme la crinière d'un éphèbe, était un être énigmatique, d'une gentillesse mutine un peu troublante. Était-ce une virago à outrance? Était-ce un jeune homme se plaisant aux accoutrements de femme? Les deux hypothèses étaient également admissibles, et Miss Hélène, engagé d'honneur à ne pas baisser pavillon sur le terrain national de l'excentricité, se promit au fond de l'âme de paraître imperturbable quoi qu'il pût advenir. « Soit, dit-elle après avoir semblé réfléchir, j'admets que vous défendiez vos droits, mais si je refusais, eh bien, nous porterions l'affaire devant un tribunal, ce qui divertirait toute la ville. » Mais ne vous empêcherez pas, je le souhaite, de demeurer ensemble en bonne camarade jusqu'à ce que le procès fût vidé. Mais pensez-vous obtenir gain de cause et prétendriez-vous démontrer? J'émettrai seulement, interrompit Josua Broguil, la prétention de contracter, par devant notaire, une association indissoluble impliquant le partage de nos fortunes et divisa entre nous le travail au dehors et les soins de la maison, le tout sous les auspices d'une loyable et fidèle amitié. N'est-ce pas là ce qu'on appelle vivre en ménage ? Miss Hélène s'apprêtait à formuler quelques objections, mais la vieille gouvernante était entrée dans la chambre sur les derniers mots de Joshua. « Voici, dit la doctoresse, l'excellente Mrs. Fleburne, persuadée que vos émotions d'aujourd'hui exigent un peu de repos. Elle va vous conduire à l'appartement que, dès ce matin, elle a préparé à votre intention. D'ailleurs, c'est le moment où je dois donner audience à mes malades. Nous reprendrons notre entretien ce soir, car le programme que j'exposais tout à l'heure nécessite d'assez longues explications. Considérez en attendant qu'au lieu de persister dans une existence pleine de tourments, vous êtes libre d'adopter chez moi le bonheur calme et rationnel. » Cette fois, la doctoresse avait parlé très sérieusement et même d'un ton un peu déclamatoire. Bon, « c'est trop drôle pour ne pas voir la suite, » se dit en elle-même Miss Hélène. « Au revoir, » ajouta-t-elle tout haut. « J'aurai le plus grand plaisir à causer ce soir avec vous. Agréez aussi l'assurance que j'incline à rester votre ami aussi longtemps qu'il vous plaira. » Les deux jeunes femmes se donnèrent une poignée de main automatique à la mode anglaise, et Miss Hélène sortit avec Mrs. Fleburne, qui lui indiquait le chemin. L'appartement destiné à Miss Hélène était situé au deuxième étage, sur le devant de la maison. À peine entrée, Miss Hélène constata, non sans un sentiment de perplexité, qu'elle avait oublié le sac aux 20 000 $. Oh, l'anxiété dura moins d'une seconde. Mrs. Fleburne déposa délicatement sur un guéridon, au milieu de la chambre, la précieuse valise et l'ombrelle. Miss Hélène, délivrée d'une belle peur, songea qu'il lui faudrait désormais veiller à son trésor. « Vous pourrez garder ce qui vous appartient dans ce meuble, » dit très à propos Mrs. Fleburne, en désignant du regard un bahut en vieux chêne, dont la solide serrure de cuivre symbolisait admirablement l'âge présent où l'on enferme l'or. Du bahut, Miss Hélène promena les yeux sur le reste du mobilier, qui formait au total un très joli nid de jeune fille, et reconnut à part soi que cet intérieur lui plaisait beaucoup. « N'est-ce pas que vous serez ici le mieux du monde ?» dit Mistress Fleburne. « Oui, à la condition de n'y pas rester trop longtemps, » pensa Miss Hélène. « Il est près de 4 heures, nous dînons à 6, » dit Mrs. Fleburne. « Mais que faire en attendant ?» se demanda Miss Hélène. « Vous pourrez lire un roman ou feuilleter des keepsakes, » dit l'obligeante camériste en ouvrant une armoire où s'étageait une bibliothèque passablement garnie. « Lire est charmant, » réfléchit Miss Hélène, « mais reparaîtrai-je ce soir dans ce costume de voyage ?»« Vous aurez aussi tout loisir de vous habiller, » dit Mrs. Fleburne, en entrebâillant une autre porte qui cachait un cabinet de toilette. Oh, c'était décidément un dialogue en règle entre une pensée et une voix. Miss Hélène ne put se défendre d'exprimer son étonnement. « Vous êtes extraordinaire, Mrs. Fleburne, » s'écria-t-elle. « Vous m'avez nommé sans m'avoir jamais vu. Vous avez préparé mon installation à l'heure où j'ignorais encore ce que le sort déciderait de moi. Et vous répondez d'avance à tout ce que je suis sur le point de vous demander de grâce. Mais qu'est-ce que tout cela signifie ?»« Excusez-moi, Miss Hélène, c'est le concours des circonstances. » Je fonde des hypothèses, oui, de simples conjectures. » La curiosité de Miss Hélène parut encore une fois gêner beaucoup la bonne vieille. Elle balbutiait ses explications, et glissant à reculons, elle s'effaça de la chambre dont elle referma la porte sans le moindre bruit. Restée seule, Miss Hélène s'étendit dans un fauteuil et laissa courir son imagination, qui retraça, comme une suite de rêves tumultueux et bizarres, les événements de la journée. La chaleur torride du matin se réfléchissait d'un souffle d'orage. Tout faisait silence, le chant seul du merle, sifflant dans le jardin sa note rieuse, vibrait imperceptiblement à travers les murs. L'harmonie de la situation inspirait la sagesse. Pourquoi Miss Hélène ne m'aiderait-elle pas désormais cette vie paisible, et pourquoi ne ferait-elle pas de son plein gré ce que semblait souhaiter Mistress Joshua? Cette pensée l'occupa longtemps, mais Mistress Flyburn avait exactement prévu ce que ferait Miss Hélène pour tuer le temps jusqu'à l'heure du dîner. Les méditations terminées, elle mit sous clé ses dollars, regarda quelques images et succomba bien vite à la tentation d'emprunter au cabinet de toilette une des robes de Joshua pour en faire l'essai mystérieux. 3 secondes plus tard, Miss Hélène se contemplait dans un miroir, vêtue à son tour d'une tunique de drap noir boutonnée tout au long, et rabattait ses cheveux dénoués sur ses épaules afin de copier jusqu'au bout l'étrangeté piquante de Joshua. « Il ne vous manque plus que ceci !» dit Mistress Flyburn, rentrée silencieuse comme un phalène, et tenant du bout des doigts un grand col de toile blanche, rigidement empesé. L'opportuniste de Mistress Flyburn atteignait au prodige, mais le plus pressé était de compléter l'épreuve. Quand le miroir encore consulté eut répondu, Miss Hélène hésita entre le plaisir de garder ce travestissement et la crainte de paraître trop familièrement libre-échangiste. Mistress Flyburn s'empressa de dissiper ses scrupules inavoués. « Rien ne sera plus agréable à Mistress Joshua que de vous voir accepter dès aujourd'hui l'uniforme de la maison, » affirma-t-elle de l'accent le plus convaincu. Et on quitta la chambre pour aller se mettre à table.